إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Avant tout, je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour profiter de ces assises de science et de rappel qui sont parmi les assises les plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence ainsi que les responsables de ce pays qui nous a accueillis et les responsables des affaires religieuses qui ont donné l'autorisation et qui ont fait toutes les causes pour qu'on puisse se réunir pour cette assise. Nous savons tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain pour un objectif précis. Et lui-même, subhanahu wa ta'ala, l'a expliqué dans le Coran Karim, dans trois versets, dans lesquels il désigne l'objectif de la création de l'être humain et des cieux de la terre. Dans Surat al-Dhariyat, Allah Ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils me vouent un culte exclusif. Puis il a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mulk « هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » C'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Puis il a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah, qui a créé les sept cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a englobé toutes choses de son savoir. Donc on voit dans ces trois versets que l'objectif de la création de l'être humain est de toutes choses. Premièrement, pour adorer Allah, pour concrétiser la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala, pour être des bons adorateurs d'Allah. Deuxièmement, pour nous éprouver, pour voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit celui qui fait le plus d'œuvres, le meilleur en œuvre. L'ihsan fil amal. Et troisièmement, pour connaître Allah. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Le troisième objectif qui est cité dans ces versets, pour que vous sachiez
qu'Allah tabarak wa ta'ala est capable de toutes choses et qu'il englobe tout de sa science. Donc, c'est pour connaître Allah tabarak wa ta'ala à travers ses noms, ces trois versets qui ont été cités, il rappelle l'objectif pour lequel Allah ta'ala a créé l'être humain. Pour concrétiser la servitude à Allah tabarak wa ta'ala. Pour nous éprouver lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Puis, pour qu'on apprenne à connaître Allah tabarak wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. À travers ses noms et ses attributs. Pour atteindre cet objectif, pouvoir purifier son âme, devenir de vrais croyants et des bons serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala, pour pouvoir persévérer dans la religion, l'objectif pour lequel Allah ta'ala nous a créés, pour pouvoir rester ferme face aux différentes tentations de cette vie, il faut absolument donner une grande importance à la science religieuse. En effet, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, cite dans son ouvrage exceptionnel Miftah Dar al-Sa'ada, que l'on pourrait traduire par la clé de la demeure du bonheur. Il explique dans ce livre le mérite de la science religieuse et ses nombreux bienfaits. Il y expose que tout le bonheur et la réussite résident dans l'acquisition de la science utile et dans sa mise en pratique. Dans un des passages de ce livre, il parle de deux types de maladies qui peuvent toucher le cœur et comment les soigner. À savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il nous a informé que ce jour-là, aucun bien, ni aucun enfant, ni aucune chose ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Comme dans Sourate Al-Shu'ara. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. Alors l'imam Ibn al-Qayyim a dit, en parlant des maladies qui peuvent toucher le cœur, il a dit, il y a deux maladies qui se présentent au cœur et qui s'y installent et qui prennent possession de ce cœur. Si elles arrivent à prendre possession de ce cœur, elles sont la cause de sa perte. Et ces deux maladies sont la source de tout le mal. N'est-ce pas que ces deux maladies sont les maladies des ambiguïtés et les maladies des désirs et des passions? Allah Ta'ala a cité ces deux maladies dans son livre. Concernant la maladie de l'ignorance et des ambiguïtés, et c'est celle qui est la plus dure, et c'est celle qui est la plus meurtrière pour les cœurs. Alors dans sa parole, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Sourate Al-Baqarah. Ils ont dans leur cœur une maladie, alors Allah leur rajouta de la maladie. Ici il s'agit du doute et des ambiguïtés en parlant des hypocrites. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Muddathir, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Et pour que ceux qui ont dans leur cœur une maladie et un enclin, et les mécréants disent, qu'est-ce qu'Allah a voulu par cet exemple? Puis Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Al-Hajj, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Afin de faire de ce que le diable jette une tentation pour ceux qui ont un enclin et une maladie dans le cœur, ainsi que pour ceux qui ont leur cœur dur. Sourate Al-Hajj. Dans ces trois versets, la maladie qui est désignée est la maladie de l'ignorance et des ambiguïtés. Concernant la maladie des désirs et des passions, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme toutes les autres femmes. Si vous craignez Allah, ne soyez pas complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Sourate Al-Ahzab. Ce qui est voulu ici, c'est que la femme n'embellit pas sa voix quand elle parle à des étrangers, pour que celui qui a une maladie et un enclin dans son cœur ne les convoitisse pas. C'est pour cela que les savants ont dit que la femme, quand elle parle à un étranger, elle durcit sa voix, elle va à l'essentiel et elle n'embellit pas son langage. Elle n'est pas complaisante dans son langage. Puis, Ibn al-Qayyim a cité encore dans ce passage, le cœur peut être touché par d'autres maladies, comme l'ostentation, l'orgueil, l'autosatisfaction, la jalousie, ou bien l'amour de présider, ou aimer s'élever sur les autres sur terre. Il a dit que cette dernière maladie, elle est composée d'une maladie liée à la passion, et aussi liée à l'ignorance et aux ambiguïtés. Car la personne, il faut absolument qu'il ait une mauvaise conception de lui-même, qu'il croit qu'il est quelqu'un d'important pour vouloir s'élever sur les autres sur terre. Donc cette mauvaise conception, c'est l'ambiguïté et l'ignorance. Et il faut aussi qu'il ait un objectif corrompu, qui est le fait qu'il aime que les gens lui donnent de l'importance. Alors toutes ces maladies, comme l'autosatisfaction, la vanité, la vantardise, l'orgueil, sont des maladies composées entre la maladie de l'ambiguïté et de l'ignorance et la maladie des désirs et des passions. Car la personne s'imagine avoir une certaine grandeur alors qu'il ne l'a pas. Et en même temps, il aime que les gens lui fassent des louanges et parlent de lui. C'est pour cela que toutes les maladies qui peuvent atteindre le cœur sont soit une maladie liée aux désirs et aux passions, soit une maladie liée à l'ambiguïté et à l'ignorance, soit une maladie composée entre les deux. Composée entre les deux. Et il finit par dire, et c'est là qu'on va en venir dans notre sujet, toutes ces maladies sont le fruit de l'ignorance. Toutes ces maladies sont le fruit de l'ignorance et leur remède est quoi ? La science. Et leur remède est la science. Donc le remède pour se présenter à Allah le jour du jugement dernier avec un cœur sain, sain de quoi ? De toutes les maladies. Les maladies des passions, les maladies des ambiguïtés et les maladies composées des deux. Les maladies ne sortent pas d'une de ces trois catégories. La seule solution, c'est la science. Utile. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, quand les compagnons radiallahu anhum sont partis en expédition et que l'un d'entre eux a eu une blessure à la tête, ils lui ont ordonné de se laver. Il s'est lavé, il est mort. Il a demandé à faire le tayammum, les ablutions sèches. Eux, ils n'ont pas su. Ils lui ont dit non, il faut absolument que tu fasses les grandes ablutions. Il est mort à cause du fait qu'il a attrapé froid et qu'il était malade, il était blessé à la tête, ça lui a nui, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché et il a invoqué contre eux. Puis il a dit une phrase très importante. Pourquoi n'ont-ils pas questionné quand ils ignoraient? Le remède de l'ignorance est la question. Le remède de l'ignorance est la question. Donc, ces maladies qui touchent le cœur, elles sont plus meurtrières et plus dangereuses que les maladies qui touchent le corps. Car la maladie qui touche le corps, au pire des cas, elle va t'emmener où? À la mort. Mais la maladie qui touche le cœur, elle t'emmène où? À l'enfer. À une perte dans cette vie et à une perte dans l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le Coran était une guérison pour les poitrines. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhannas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ouvre les gens, une exhortation vous est parvenue de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, ainsi qu'une guidée et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus. C'est pour cela le lien qu'il y a entre les savants et les cœurs, c'est comme le lien qu'il y a entre les médecins et les corps. Et les savants sont appelés les médecins du cœur. Les savants sont appelés les médecins du cœur. Si plusieurs contrées venaient à manquer de médecins, ce serait nuisible pour les gens. Mais si ils viennent à manquer de savants, c'est encore plus nuisible. Car la science, ils en ont besoin à chaque instant de leur vie. Car la science pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. La science pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Il ne peut pas vivre sans cette science. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ceux qui étaient aveugles dans cette terre, qu'ils seront ressuscités aveugles dans l'au-delà. Comment ils étaient aveugles? Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas. Ils avaient des cœurs, mais ils ne comprenaient pas. Comme Allah Ta'ala les a décrits dans le Coran Karim. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Celui qui était aveugle sur cette terre, c'est-à-dire aveugle du cœur, il n'a pas eu la connaissance, cette science utile. Donc il était aveugle, il ne voyait pas les signes d'Allah. مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى. Celui qui était aveugle sur cette terre, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Il sera dans l'au-delà aveugle. وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Mais encore plus égaré que ça. Plus égaré qu'un aveugle. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de ces gens qui étaient aveugles sur terre, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Et nous les ressusciterons sur le jour du jugement dernier, sur leur visage, aveugles, muets, sourds. Leur demeure sera la Géhenne. À chaque fois qu'ils penseront qu'elle va s'éteindre, à chaque fois qu'elle va diminuer, nous lui augmenterons encore de la puissance de feu. Qu'Allah nous en préserve. Dans ce bas monde, ils étaient aveugles. Ils seront alors ressuscités aveugles le jour du jugement dernier. Mes frères, j'ai voulu lire ce passage en introduction pour comprendre l'importance et la nécessité que chacun a de la science religieuse. Car sans science, il est aveugle. Sans science, son cœur est malade. Touché par les maladies des ambiguïtés et de l'ignorance qui le tire à gauche et à droite, touché par les maladies des désirs et des passions qui l'éloignent de l'ordre d'Allah. Il est donc nécessaire, pour être constant et persévérer dans sa religion, de faire un effort d'apprendre ce qui nous est utile dans notre religion. La science religieuse est une des choses les plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par l'imam Tabarani, une personne se nommant Safwan ibn Assal est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question religieuse. Alors au messager d'Allah, il lui a dit: « Ô messager d'Allah, je suis venu te voir pour étudier la science. » Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: « Bienvenue à celui qui est venu étudier la science. » Les anges abaissent leurs ailes par humilité et agrément de ce que l'étudiant en science fait lorsqu'il prend un chemin pour étudier la science. Ils étalent leurs ailes les unes au-dessus des autres jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel. Il lui dit alors: « Quelle est ta question ?» Il lui dit: « Moi, je suis une personne qui voyage beaucoup. Ô messager d'Allah, je suis venu te poser des questions concernant l'effleurement des chaussons. » L'effleurement sur les coups. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre: « Ceci est valable 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 journée et 1 nuit pour le citadin. » Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, comme al-Bayhaqi le rapporte dans Shu'ab al-Iman, a dit: « Bienvenue envers ceux envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'être bons. » Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Allah va ouvrir une terre où il y a un peuple. Ce peuple vous enverra des enfants, des jeunes hommes pour étudier la science chez vous et pour s'éduquer dans la religion. Ils sont venus pour que vous leur enseigniez. Alors s'ils viennent vous voir, soyez bons envers eux, enseignez-leur, soyez doux envers eux et élargissez vos assises pour eux. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, qui est un hadith authentique: l'apprentissage de la science religieuse est une obligation pour chaque musulman. Tout le monde est obligé d'apprendre un minimum. Est-ce que cela veut dire que tout le monde est obligé de maîtriser tous les détails de toutes les sciences religieuses? Non. La science qui est obligatoire, c'est celle dont il a besoin pour pratiquer sa religion tous les jours. Connaître les bases de sa croyance, connaître comment se purifier et sa salat, connaître comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, comment faire le pèlerinage s'il en a les moyens, le hajj. Il doit connaître plus largement les choses licites et illicites, les choses halal et haram. S'il est commerçant, il doit connaître les règles dans le commerce. Ainsi de suite. L'imam Ibn Abdelbar, rahimahullah, a expliqué ce hadith en disant: ce qui est nécessaire à tout étudiant en science est d'étudier ce dont il a besoin pour ses ablutions, sa salat, la zakat. Pour ce qui lui est obligatoire de connaître, il n'a pas besoin de demander la permission des parents pour sortir le rechercher, car c'est une obligation individuelle. Par contre, pour ceux qui dépassent cette mesure, il doit demander l'autorisation de ses parents s'il doit voyager pour aller le chercher, car c'est une obligation communautaire et non pas individuelle. Donc si une personne veut voyager pour étudier la science, plus que le minimum nécessaire, il doit avoir l'aval et l'autorisation de ses parents, car c'est une obligation communautaire. Que veut dire l'obligation communautaire ? Il faut suffisamment de personnes pour combler cette obligation pour que le reste des musulmans en soit déchargé et n'emporte pas le péché. Par contre, s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour combler le besoin des musulmans, tous les musulmans portent le péché jusqu'à qu'il y ait suffisamment de personnes. Et en réalité, dans chaque ville, il faut un savant. Dans chaque contrée, il faut un savant. Car les gens, ils ont besoin de la science tous les jours, on vient de le démontrer. Ou au minimum, un étudiant en science qui est capable de leur répondre sur les choses essentielles. Puis qui revient au plus grand savant dans les choses plus compliquées. Au minimum. Allah Ta'ala dit:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة التوبة. Il n'appartient pas à tous les croyants de sortir pour apprendre la science. Si seulement une partie d'entre eux voyage, sortait pour apprendre la religion et avertirait leur peuple quand ils reviennent, peut-être prendraient-ils garde. Donc ça, c'est la preuve que c'est une obligation communautaire. Donc, quelle est la partie qui est une obligation communautaire ? C'est de se s'approfondir dans tous les domaines de la science. Et quelle est la partie qui est une obligation individuelle pour chaque musulman ? C'est ce dont il a besoin dans sa vie de tous les jours. Une croyance authentique, une pratique authentique, la salat, le jeûne, la zakat, le hajj, connaître le licite et l'illicite, connaître le halal et le haram dans l'emploi ou dans le travail qu'il pratique. S'il est commerçant, dans son commerce. S'il est agriculteur, dans l'agriculture, etc. S'il est employé, en tant qu'employé. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, comme c'est rapporté dans Sunan ibn Majah, il a vu que les gens de Médine faisaient une pratique que les agriculteurs qui plantent des dattiers connaissent, qui est le fait d'accrocher le pollen des dattes aux femelles, aux dattiers femelles. Car chez les dattiers, il y a les femelles et les mâles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne pense pas que ça servirait à quelque chose. Eux, ils ont compris ça comme un ordre religieux, ils ont arrêté de le faire. Ils l'ont délaissé. L'année d'après, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, tu nous as dit de laisser cela et maintenant nous n'avons pas eu une bonne récolte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, je ne vous ai pas dit cela sous la révélation, ce n'est pas une révélation. Je vous ai juste donné un avis. Vous connaissez mieux les choses de ce bas monde que moi. Si je vous ordonne quelque chose, prenez-le. Et si je vous donne juste un avis, je peux me tromper. C'était un avis comme un autre. Ceci, ce hadith prouve quoi ? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu nous enseigner l'agriculture, l'ingénierie, la médecine, qui sont des sciences louables et utiles pour la communauté. Mais ce n'est pas cette science qui est l'héritage prophétique. L'héritage prophétique, c'est la science religieuse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les savants sont les héritiers des prophètes, il parle de quels savants ? Les savants en science religieuse, non pas l'ingénieur ou le médecin ou autre, qui sont, alhamdoulilah, qui peuvent avoir, on va en parler plus largement, inshallah, bientôt, qui peuvent avoir beaucoup de récompenses dans ce qu'ils font s'ils ont une bonne intention. Et s'ils pratiquent leur métier d'une manière correcte. Mais ils n'ont pas la valeur des savants qu'Allah a nommés, qui sont eux-mêmes les héritiers des prophètes. Car les prophètes, ils ne connaissaient pas ces domaines-là de la vie. Ils connaissaient les domaines liés à la religion. L'héritage que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé est la science religieuse. Les sciences mondaines, comme la médecine, les mathématiques ou autres, sont utiles pour la communauté. Mais ce ne sont pas les sciences qui sont désignées par les textes religieux. Quand Allah tabaraka wa ta'ala vante le mérite des savants, il évoque la science religieuse. La science mondaine peut devenir obligatoire d'une obligation aussi communautaire quand cette science est une nécessité pour le bien des musulmans, pour le service des pays musulmans, pour le service des gens en général. Donc cela peut être un grand bien et même une obligation. Et le cheikh Al-Athaymin, rahimahullah, a dit que ce type de science est à double tranchant. Les sciences mondaines, c'est à double tranchant. Si la science est utilisée avec une bonne intention et d'une manière licite, et qu'elle soit utile pour les musulmans, c'est une bonne chose. Par contre, si elle est utilisée avec une mauvaise intention,
ou si le domaine étudié est lui-même illicite, ou le cadre dans lequel il est illicite, alors cela devient interdit. Fin de citation de la part du cheikh. C'est pour cela, barakallahu fikoum, une personne avant de s'ancrer, avant de se lancer dans des études de sciences mondaines, il faut premièrement qu'il connaisse les bases de sa religion. Puis, il doit savoir qu'est-ce que sa religion dit sur ce domaine. Quelle est la vision islamique de ce domaine? Pour partir sur des bonnes bases, pour que quand il va étudier ce domaine, il ne prenne pas des modes de pensée qui sont contradictoires à ce que l'islam enseigne. Et après, il vient et dit « science de l'éducation islamique ». Il n'a rien d'islamique, sa science de l'éducation, elle n'a rien d'islamique. Il a juste dit « Bismillah » au début, il a dit « Alhamdulillah » à la fin. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est pas islamique. Il n'est pas interdit de profiter des expériences des autres, à condition qu'on parte sur nos bases qui sont déjà saines. Mais d'effacer nos bases et de faire de l'expérience des autres la base, c'est ça l'erreur dans laquelle les musulmans aujourd'hui sont tombés. Alors, dans la science de l'éducation, ils prennent comme modèle autre que ce que le Coran et la Sunna nous a laissé. Dans la science de la psychologie, ils prennent comme modèle autre que ce que l'islam, que le Coran et la Sunna nous ont laissé. Et que les savants de l'islam ont expliqué depuis des années. Et après, il vient, il dit Bismillah et Alhamdulillah, il dit je suis un psychologue musulman. Tu es musulman, on remet pas en question ton islam, tu es un psychologue musulman, mais la psychologie que tu pratiques n'est pas islamique, tant qu'elle ne respecte pas la vision islamique de la psychologie de l'être humain. Donc, ce point est très important. Avant de s'ancrer dans un domaine, dans quelque domaine que ce soit, il faut déjà en connaître la vision religieuse de ce domaine. Qu'est-ce que l'islam dit de la psychologie? Comment il voit la psychologie? Comment il voit l'être humain? Comment il voit l'éducation? Comment il voit l'âme? Comment il voit ça? Et vous allez vous rendre compte, rapidement pour celui qui fait cet effort, qu'il y a de nombreuses contradictions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des modes d'éducation, comme ils appellent, alternatifs, dans lequel l'enfant est roi. On n'a pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Il ne faut pas le punir, il ne faut pas lui ordonner. Nous, on va prendre cette parole-là, on va la peser avec la balance du Coran et de la Sunna. Et on va voir que le Coran, il ne nous a pas enseigné ça. Le Coran nous a enseigné l'encouragement et les mises en garde, la récompense et la punition, l'ordre et l'interdiction. Alors, comment on peut devancer la parole d'une personne, quiconque, à ce que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné? Et après on vient et on dit école, je vais pas dire le nom, islamique. Quel islamique il a cette école? Juste le fait que les professeurs sont musulmans, mais ils n'ont pas de formation pour donner une éducation en adéquation avec les valeurs de l'islam. Même s'ils font du Coran, ils font de l'arabe, oui, mais le mode d'éducation, le mode, la pédagogie utilisée, est-ce qu'elle est en adéquation avec l'islam? Et comme je le dis, je le répète, il n'y a pas d'interdiction de profiter de l'expérience de qui que ce soit, tant qu'elle n'est pas en contradiction et tant qu'elle est bonne. Mais où sont nos bases d'abord? D'abord, il faut connaître nos bases pour construire dessus solidement. Non. La science dont on parle, comme Ibn al-Qayyim l'a dit, c'est la science, c'est Allah a dit. Son messager a dit, les compagnons ont dit. Ce sont eux qui ont la connaissance. La science n'est pas que tu lèves et exposes la divergence par faiblesse d'esprit entre le prophète et l'avis d'une personne. Donc la divergence en islam n'est pas un argument en soi. On doit s'évertuer de chercher la vérité et ce qui est en concordance avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'unanimité des savants, avec l'analogie juste. Les savants sont les héritiers des prophètes, mais ils ne sont pas infaillibles. Ils divergent en cherchant la vérité, mais ils sont tous unanimes sur un fondement commun. Si la vérité apparaît à un savant selon des preuves du Coran et de la Sunna, il ne lui est pas permis de dire autre chose que cela. Ça serait, dans son cas, taire la vérité et taire la science. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah, qui est authentique, il a mis en garde contre le fait de taire une science lorsqu'on est questionné, et il a dit « Celui-ci sera ressuscité avec une bride de feu dans sa bouche le jour du jugement dernier. » Quand un savant fait un effort de déduction ou d'interprétation, il est obligatoire de suivre ce à quoi il est arrivé après son effort, s'il a fait un effort correct. À condition que ce soit quelqu'un de reconnu par ses pairs, c'est-à-dire il est reconnu par les savants comme un savant. Il n'est pas permis à chacun de prendre le Coran et de dire « Tiens, ça veut dire ci, ça veut dire ça. » Est-ce que dans les sciences mondaines, on accepte que n'importe qui parle sur la médecine? N'importe qui. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui va prendre le micro ou il va faire un article sur le cancer. Tu es qui? Oh, j'ai étudié, j'ai regardé pas mal d'articles sur le cancer sur Internet. Vous faites confiance à ce type d'article? Alors pourquoi dans la religion vous faites confiance? N'importe quelle personne, il écrit, vous lisez, vous écoutez. Est-ce que c'est votre corps qui est plus important ou la religion? C'est quoi votre plus cher capital? Comme pour les sciences mondaines, on n'accepte que des professeurs reconnus. Dans la science religieuse, encore plus, on doit être encore plus méticuleux. On ne prend jamais sa religion d'une personne qui n'est pas reconnue pour sa droiture et pour sa science. Sinon, on s'expose au danger de l'égarement et des ambiguïtés. Tous les groupes aujourd'hui qui existent là, extrémistes ou autres, qui ont fait du mal à la communauté, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont écouté des gens qui ne méritent pas d'être écoutés. Parce qu'ils ont été sur Internet, parce qu'ils ont regardé YouTube. Parce qu'ils ont questionné des ignorants, au lieu de revenir aux savants. Et voilà le mal que ça a fait à toute la communauté. Combien de musulmans meurent? Combien de pays sont en guerre? Combien de musulmans sont privés de leurs droits dans certains endroits à cause de ces ignorants qui ont fait du mal? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a enseigné de demander protection contre la science inutile. La science utile, c'est celle qui nous pousse à œuvrer, à aimer Allah, à lui obéir. C'est la connaissance de notre Seigneur, des règles religieuses, de leur mise en pratique, des obligations et des interdits. Il y a aussi d'autres sciences qui peuvent être utiles, comme les sciences mondaines, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a une bonne intention et une bonne manière, elles sont utiles, que ce soit les mathématiques ou la médecine ou certaines sciences de l'ingénierie ou autres, qui peuvent être très utiles pour la communauté. La science religieuse, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, nous avons besoin de la science religieuse plus que de boire et de manger. Car boire et manger, c'est une ou deux fois par jour, alors que la science religieuse, nous en avons besoin pour chaque respiration. Pour chaque respiration. Allah Ta'ala dit, « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. » Certes, Allah a témoigné qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, ainsi que ses anges et ceux qui ont la science sont tout équipés. Allah Ta'ala a lié les noms des savants à son nom et au nom des anges. Et il les a pris à témoin pour la plus grande chose sur cette terre, qui est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'objectif pour lequel nous avons été créés. Allah, il n'a pas besoin de les prendre à témoin. Pourquoi les a-t-il pris à témoin? Pour les honorer, pour montrer leur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes, certes les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science religieuse, car celui qui l'a prise a pris une très grande part en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite du savant sur un dévot, c'est quoi un dévot? Quelqu'un qui prie la nuit et qui jeûne le jour. C'est pas quelqu'un du commun, un adorateur, un dévot, qui prie les nuits, qui jeûne le jour. Le mérite d'un savant sur un dévot, c'est comme la différence qu'il y a entre moi et le plus bas d'entre vous, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la différence entre lui et le plus bas parmi les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la supériorité du savant sur le dévot est comme la supériorité de la lune sur toutes les autres étoiles. Regardez la lune comment elle est, regardez les autres étoiles comment elles sont. Pourquoi ici le savant a été comparé à la lune? Premièrement, car la lune ne dégage pas de lumière d'elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. De même, les savants ne tirent pas leur science d'eux-mêmes. Ils ne font que transmettre ce dont ils ont profité de la révélation et de la science qui est venue avec les messagers envoyés par Allah, tabarak wa ta'ala. De même, la lune a différentes positions tout au long du mois. Il y a des moments où elle est pleine, il y a des moments où elle est à moitié, il y a des moments où elle est à quart. Pareil, les savants ont des niveaux différents. Il y a des savants qui ont beaucoup de science, il y a des savants qui ont un peu moins de science. Même s'ils sont tous des savants, entre eux, il y a des degrés. Comme la lune, aux différents moments du mois, elle est différemment éclairée. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « يَلْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ » Certes, Allah élèvera ceux qui ont la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. Allah élèvera ceux qui ont eu la foi par rapport aux mécréants. Et Allah élèvera ceux qui ont reçu la science par rapport à ceux qui n'ont pas reçu la science. Allah tabarak wa ta'ala a dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Certes, ceux qui craignent réellement Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Dans le hadith de Muawiyah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. » Être versé dans les sciences de la religion est un signe de l'amour d'Allah pour nous. Et la chose la plus importante pour les pieux prédécesseurs était l'acquisition de la science religieuse. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit « Il n'y a pas une meilleure chose pour se rapprocher d'Allah que la science religieuse, à condition que la personne ait une bonne intention. » Quelle est cette intention? Quelle est cette bonne intention qu'on étudie la science? Pour quelle intention une personne, elle étudie la science religieuse? Le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, a dit « On doit apprendre la science premièrement en réponse à l'ordre d'Allah, pour obéir. Car Allah Ta'ala nous a ordonné d'apprendre notre religion en disant « فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ » Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Sache. Donc c'est un ordre d'apprendre. La deuxième intention est de préserver la législation islamique en l'apprenant, en la mémorisant et en la préservant. La troisième intention est de défendre et de protéger l'islam de toute falsification et déviation, en éloignant l'ignorance d'abord de nous-mêmes, afin de défendre la religion contre les innovations, contre les ambiguïtés lancées par les ennemis de l'islam et les gens en cœur malade. Aussi pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le fait d'apprendre constamment la science. Pour que cette science soit bénéfique, il y a des règles de bienséance et des politesses à respecter. Si la personne ne respecte pas ces règles, il sera privé du profit de la science religieuse. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs et les grands imams de l'islam donnaient une très grande importance à la politesse et au comportement dans l'apprentissage de la science religieuse. Première chose, le respect du professeur. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, ou bien Abdullah ibn Abbas venait en pleine chaleur de midi en Arabie à la porte de Zayd ibn Thabit juste pour lui poser une question. Il a attendu des heures sous le soleil jusqu'à s'endormir devant la porte. Et il était recouvert de poussière. Il n'a pas voulu le déranger jusqu'à ce qu'il sorte de lui-même. Quand Zayd est sorti, il l'a vu dans cet état-là. Il lui a dit « Que t'arrive-t-il ? » « Ô cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fallait me déranger. » Abdullah ibn Abbas lui répond « Est-ce à toi de sortir à ma rencontre ? C'est moi qui ai besoin de toi. C'est à moi de patienter et d'attendre. » Aussi, une fois, il a tenu la monture de Zayd ibn Thabit, une chose que seuls les servants faisaient à cette époque-là. Ou bien, une personne qui témoigne beaucoup de respect vers un autre. Alors Zayd ibn Thabit lui a dit, ne fais pas cela, monte avec moi. Et voilà qu'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a répondu, non, c'est comme ceci qu'on nous a enseigné d'être avec les savants. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, donnait une grande importance à Abdullah ibn Abbas. Il le faisait entrer dans les assises où il y avait les grands compagnons et les gens âgés parmi les compagnons. Et les gens âgés, les grands compagnons, ils n'aimaient pas que les enfants s'assoient avec eux. Ils avaient l'habitude que les personnes âgées s'assoient avec eux. Donc, c'est comme s'ils avaient une gêne qu'Abdullah ibn Abbas s'assoie avec eux. Omar radiallahu anhu a voulu montrer son mérite. Il leur a posé une question devant tout le monde. Il leur a dit, que dites-vous de la parole d'Allah dans surat al-Nasr ? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ils l'ont expliqué selon l'apparent du texte. Allah Ta'ala dit que quand la victoire d'Allah vient et que les gens rentrent beaucoup en islam, il faut beaucoup glorifier son nom et lui demander pardon. Voilà que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, toi cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Abdullah ibn Abbas, que dis-tu de ces versets? Il a dit, ces versets, ils sont venus annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets, ils sont venus annoncer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiallahu anhu a dit, je n'en connais pas d'autre interprétation à part celle-ci. Il a voulu montrer la valeur d'Abdullah ibn Abbas devant les grands. Pourquoi il le fait rentrer dans les assises avec les grands? La mère de l'imam Malik ibn Anas l'habillait de la plus belle des manières. Lui mettait un très beau turban et lui disait, va mon fils, va chez Rabi'a, apprends de sa politesse et de son comportement avant même d'apprendre de sa science. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, la personne à notre époque qui voulait apprendre le hadith devait auparavant s'éduquer, apprendre la politesse, faire des efforts dans les adorations pendant 20 ans avant d'apprendre la science du hadith. Les savants les éduquaient. Ils les encourageaient au bien. C'est ainsi que se faisait l'éducation en islam. C'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis de savant en savant jusqu'à aujourd'hui. L'imam Shafi'i, rahimahullah, vous savez tous que l'imam Shafi'i était l'élève de l'imam Malik, a dit, quand j'étais avec l'imam Malik, je faisais attention à la manière de tourner les pages pour ne pas faire trop de bruit. J'avais de la pudeur devant lui. Ishaq al-Shahidi a dit, je voyais Yahya al-Qattan, tous ceux-ci sont des grands savants, prier la prière de l'Asr, puis s'appuyer sur son mimbar, puis Ali ibn al-Madini, un grand savant du hadith, était debout devant lui avec d'autres, comme Ahmed ibn Hanbal, Ahmed ibn Ali, Yahya ibn Ma'in. Il posait des questions sur la science du hadith. Ils sont restés debout ainsi jusqu'à la prière du Maghreb. Quand on leur disait, asseyez-vous, ils disaient, je n'arrive pas à m'asseoir de pudeur devant le chef. Abdullah ibn al-Mubarak a dit, celui qui néglige les politesses sera privé des sunnans, des traditions prophétiques. Celui qui néglige les traditions prophétiques sera privé des obligations. Et celui qui néglige les obligations sera privé de connaître Allah et d'être un bon adorateur. Ibn Asakir a dit, la viande des savants est empoisonnée. La tradition d'Allah sur ceux qui les rabaissent est bien connue. Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Donc, la politesse dans l'apprentissage de la science est très importante. Mais il y a une chose à savoir. Il y a une manière de parler à son professeur. Une manière de l'appeler pour avoir la baraka dans cette science. Une manière de s'asseoir dans l'assise. Ne pas polémiquer avec lui. Ne pas poser des questions d'une mauvaise manière pour afficher son erreur devant tout le monde. Mais s'il a fait une erreur, on va le voir en privé. Il ne faut pas être dans l'exagération avec ses professeurs, ou avec les savants, ou avec les personnes de science, au point de les élever au-dessus de leur niveau, ni dans la dureté, au point de leur manquer de respect. C'est pour ça que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, disait, votre problème, c'est que ou bien vous adorez les chouyoukhs, ou bien vous les insultez. Il n'y a pas de juste milieu. Ou vous les adorez ou vous les insultez. Ni l'un ni l'autre. Ceux qui exagèrent envers les prophètes et les gens pieux sont à l'image des dhalin qui ont exagéré sur les prophètes et les gens saints. Et ceux qui ont de l'hostilité envers eux sont à l'image des maghdoub alayhim, de ceux qui ont encouru la colère. La science que l'on apprend et qui n'est pas mise en pratique sera un témoin contre nous le jour du jugement dernier, qu'Allah nous en préserve. Écoutez bien cette histoire. C'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Il y a une personne qui habitait en Syrie, en Cham, sous le règne de Muawiyah, radiallahu anhu. Il a voyagé à Médine pour rencontrer Abu Huraira, radiallahu anhu, et apprendre de lui un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prendre un hadith. Donc il est parti du Cham jusqu'à Médine juste pour ça. Cette personne, elle s'appelle Shufay al-Asbahi. Shufay al-Asbahi. Arrivé à Médine, il a vu des gens attroupés, réunis autour d'une personne qui donnait un enseignement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a questionné qui est-il. Ils lui ont dit c'est le noble compagnon Abu Huraira. Alors il a attendu qu'il finisse. Il est venu le voir. Il a dit à Abu Huraira, enseigne-moi un hadith que tu as entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu as bien compris, que tu as bien retenu. Voilà qu'Abu Huraira radiallahu anhu de lui répondre, je vais t'enseigner un hadith. J'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien entendu, que j'ai bien retenu. Quand il va pour parler, il a été pris d'une crise d'épilepsie, il est tombé. Choufé, il a retenu. Quand il s'est réveillé, il l'a questionné une deuxième fois. Enseigne-moi un hadith que tu as entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu as bien compris, que tu as bien retenu. Il a dit, Ajani. Je vais t'enseigner un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai bien compris, que j'ai bien retenu. Quand il a voulu le citer, il a été pris de crise, il est tombé, il l'a retenu. Une troisième fois, quand il s'est réveillé, il l'a questionné. Une troisième fois, il a eu une crise, cette fois, il a failli tomber sur sa face la première. Quand il s'est réveillé, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette maison, dans sa maison. Il a montré l'endroit, la maison de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré. Dire, Allah viendra le jour du jugement dernier. Juger entre les gens et toutes les communautés seront agenouillées. Et les trois premiers par lesquels l'enfer sera attisé seront un savant, un combattant et un grand donateur. Alors, Shufay al-Asbahi est parti avec ce hadith. Ce hadith que rien que pour le raconter, Abu Huraira a perdu connaissance trois fois. Arrivé en Syrie, avec ce hadith, Muawiyah radiallahu anhu lui a demandé, qu'as-tu à nous rapporter? Alors il lui a raconté le hadith. Et Muawiyah radiallahu anhu a tellement pleuré qu'il en est tombé. Et il a dit, voilà ce que l'on va faire de ces personnes qui sont les meilleures en islam. Alors que fera-t-on de nous? Pourquoi? Parce que ces personnes, elles n'étaient pas sincères dans leurs actions. Ces actions sont les meilleures en islam quand elles sont faites sincèrement et de manière correcte. Et elles peuvent être les pires si la personne n'est pas sincère dans ses actions et qu'il ne la fait pas de la manière qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une science par laquelle on recherche le visage d'Allah, ne voulant par cela qu'un bien éphémère de ce bas monde, comme l'honneur, la célébrité ou autre, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend la science pour pouvoir polémiquer avec les savants, se vanter auprès des ignorants, ou pour que les visages des gens se tournent vers lui, qu'il prépare sa place en enfer. Voilà donc l'importance d'avoir une intention correcte dans l'apprentissage de la science religieuse. Il faut avoir une intention correcte au début de son cheminement, pendant son cheminement et jusqu'à la mort. Car Shaytan ne cesse de faire l'effort sur l'intention de l'être humain pour corrompre ses actions. D'ailleurs, les pieux prédécesseurs disaient « Je n'ai pas trouvé quelque chose de plus dur que de vérifier toujours mon intention, qu'elle soit correcte. » C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Parmi les règles de bienséance, c'est qu'il faut apprendre une science authentique, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, celle sur quoi étaient les meilleures générations et celle de quoi ont hérité les grands savants jusqu'à aujourd'hui. Allah Ta'ala a attesté de la droiture des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit lui-même que ceux qui vivront verront beaucoup de divergences. Et il a ordonné de s'attacher à sa sunnah, à sa tradition et à la tradition des califs bien guidés. Et il a ordonné de rester sur la voie de ses compagnons, radiyallahu anhu. Tout le bien, il est dans le suivi des pieux prédécesseurs. Et tout le mal, il est dans le fait de suivre les innovations des successeurs. C'est pour cela, la référence dans la science, c'est le Coran, la Sunna, et la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons et des meilleurs siècles. D'où l'importance de bien choisir d'où on prend sa science. Il n'est pas permis de prendre sa science religieuse chez tout le monde. On doit la prendre chez une personne confirmée et de confiance, confirmée dans sa droiture. On doit le connaître pour être sur la Sunna, sur un bon comportement, confirmé dans sa science. Il doit avoir étudié auprès des savants, confirmé dans ce qu'il transmet. Il ne transmet et il fait un effort de transmettre que ce qui est juste. Bien sûr, tout le monde peut se tromper, mais il a des bases de compétences pour pouvoir faire ce rôle, tenir ce rôle. C'est pour ça que l'imam Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, a dit « Cette science est votre religion ». Regardez bien donc de qui vous prenez votre religion. Attention à Internet, la mère de tous les dangers et de tous les égarements. Internet. Il faut savoir que la base, c'est d'abord savoir de qui on prend avant d'écouter, et non pas le contraire. On écoute, après on dit « c'est qui cette personne ?» On lit, après on dit « mais qui a écrit ? Pourquoi t'as lu ?» Les poisons, ils sont entrés déjà, ça y est. Le poison est déjà rentré. Maintenant, il faut faire l'effort de l'enlever. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans toutes les langues du monde, il y a des gens corrects, des gens formés, des gens de confiance qui enseignent. Avant, il n'y avait pas. Il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Les anciens, là, ils savent, en France, il y a 20 ans, pour demander comment faire les ablutions, on ne savait pas à qui demander. Il y a 20-25 ans, il n'y avait pas 3 jeunes dans la mosquée. Un jeune, 2 jeunes, il n'y avait pas. Tout le monde parlait que l'arabe dialectal et personne ne connaissait rien. Le meilleur que tu pouvais trouver, c'est quelqu'un qui, au pays d'origine, au Maghreb, il a étudié un petit peu. Il peut te transmettre un petit peu de ce qu'il connaît. Ça, c'était magnifique quand tu retrouvais ça. Il n'y avait rien. Maintenant, alhamdulillah, tous les moyens sont là. Maintenant, il y en a trop. Mais dans ce trou, il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de choses fausses, beaucoup d'égarements. Donc maintenant, le danger, il est que l'information, elle est très nombreuse. Donc on doit déjà se censurer, s'auto-censurer, savoir de qui on prend. À partir de là, pour partir sur des bonnes bases et savoir que notre religion, on la prend de gens de confiance. Après cela, alhamdulillah, de toute façon, la personne, il n'aura pas le temps d'écouter 15 savants ou 15 professeurs ou 15 étudiants. Chacun d'entre eux, il a des milliers de cours. Si tu arrives à écouter tous les cours, déjà, t'en finis pas avec une personne. Cheikh Al-Athaymin, rahimahullah, si quelqu'un écoute tous ses cours, je crois que sa vie ne lui suffit pas, il n'arrive pas. Il y a des milliers de cours dans le tafsir, dans l'aqida, dans le fiqh, dans la langue arabe. Rien que lui. Un. Donc l'important, ce n'est pas la quantité de personnes chez qui on va prendre, mais de prendre chez des gens de confiance. Aussi, il faut savoir qu'il est interdit en islam de prendre d'un inconnu. Il ne suffit pas que quelqu'un soit égaré pour ne pas prendre de lui, même s'il est inconnu. Ou bien inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas son nom, d'où il vient. Ou bien inconnu, c'est-à-dire on ne connaît pas, est-ce qu'il a les aptitudes pour enseigner. Alors il y a plusieurs manières de savoir cela. Ou bien cette personne a été désignée par des gens qui ont les aptitudes, par les savants, par les ministères religieux quand ils s'occupent de ça d'une manière correcte. Alors, s'il a été désigné par ces gens-là, automatiquement ils l'ont testé. Ils ne vont pas le désigner comme ça pour faire imam, pour donner des cours, s'ils ne connaissent rien de lui. Il doit présenter des diplômes, il doit passer des tests, il doit faire des entretiens. Sinon, il ne pourra pas parler comme ça. Sinon, tout le monde se lève et parle. Non. Non. Ou bien il a été désigné par les savants, recommandé par les savants de confiance, que cette personne, c'est un de nos étudiants, on le connaît, il a des aptitudes pour faire telle et telle chose. Non. Ou bien il est connu que cette personne enseigne, et les savants ne disent rien de lui, c'est-à-dire ils acceptent, ils l'agrègent sur cela. Ils savent qu'il enseigne, et ils agrègent la situation. Ils ne disent pas que cette personne n'est pas une personne à délaisser. Donc, alhamdulillah, il y a beaucoup de bien, il faut juste savoir comment le prendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la baraka est avec vos grands. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait d'aller chercher la science chez les petits, au lieu de retourner chez les grands. Ibn al-Mubarak a expliqué qui sont les petits. Il a dit, les petits, c'est ceux qui parlent avec leur propre avis. Mais un petit qui transmet les avis des grands, il n'est pas considéré comme un petit. Le petit, c'est celui qui parle de son propre avis. Il donne son avis sur les choses. Il ne revient pas aux grands savants. Il ne revient pas aux savants de l'islam, les imams de l'islam reconnus. Il fait sa propre interprétation. Il lit et il te donne ses propres interprétations des choses. Surtout, surtout les frères, dans les grandes questions concernant les troubles dans les pays musulmans, concernant les difficultés, concernant les fatwas sur les grandes questions. On ne prend que des grands savants reconnus dans l'islam, de personne d'autre. C'est cela qui a perdu la communauté aujourd'hui et qui l'a mis dans le trouble dans lequel elle est. Du fait qu'ils ne font pas attention d'où ils prennent. Ils aiment bien traîner comme ça sur les réseaux sociaux. Hop, ils cliquent sur YouTube, il y a une autre vidéo qui arrive, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Ils cliquent. On lui envoie un lien, il clique. En fait, il clique sur tout ce qui bouge. Mais subhanallah, il ne se rend pas compte qu'il se met en danger. Si dans ce qu'il écoute, il y a une ambiguïté qui le touche, une parole fausse, comment il va faire pour s'en débarrasser après? Si au lieu d'apprendre la science véridique et authentique, il prend des ambiguïtés à gauche, à droite, et il le mélange avec le vrai, combien d'obstacles entre lui et Allah vont s'interposer? Combien d'obstacles entre lui et la science authentique vont s'interposer? Ça peut même être la cause de son égarement, comme ces pauvres jeunes qui se sont fait avoir par tous les prédicateurs de la fitna. Qu'Allah nous en préserve. Pour finir, et pour pas être trop long, il est important de patienter dans l'étude de la science. La patience est un élément nécessaire pour étudier la science religieuse. Parfois, la patience est avec ton professeur, tu as un professeur qui est dur, afin de profiter de sa science. Ikrima a dit, j'ai appris la science religieuse pendant 40 ans avec Ibn Abbas, il attachait mes pieds pour que je reste assis à côté de lui à prendre le Coran et la Sunna. Qui accepte ça aujourd'hui? On va pas le faire, ne vous inquiétez pas. Nafir a dit, j'ai été au service de Abdullah ibn Omar pendant 30 ans pour profiter de sa connaissance. La science religieuse ne s'apprend pas d'un coup, On ne peut pas tout apprendre rapidement. Il n'y a pas de formation accélérée pour être un savant ou un étudiant en science. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit cela, il vous ment. On peut avoir des formations accélérées pour prendre des bases, pour avoir une vision générale. Mais il faut des années d'études, de pratiques, de recherches, des années pour évoluer dans la science. D'ailleurs, une personne est venue poser une question à Soufiane Thaouri, rahimahullah. Il lui a répondu. Puis il lui a posé une deuxième question. Il lui a répondu. Puis il lui a posé une troisième question. Il lui a dit, reviens demain. La personne était insistante. Mais Soufiane lui a dit, reviens demain. Veux-tu prendre en une assise ce que moi j'ai pris en 40 ans? Reviens demain. Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, a dit, celui qui cherche à apprendre la science en une seule fois, cette science partira de lui en une seule fois. Mais la science religieuse se demande et se cherche en passant des journées et des nuits. Il faut apprendre par échelon, par palier, selon son niveau, se faire suivre par un professeur. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a ordonné aux éducateurs d'être rabbaniyin. C'est-à-dire, comme Al-Bukhari l'a expliqué, il a rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas qui a dit, cela veut dire enseigner d'abord les petites choses avant d'enseigner les grandes choses. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, cette science, on ne l'atteint pas avec l'argent ou une haute position ou par l'honneur et l'orgueil. Mais cette science, elle s'acquiert par la modestie et par le fait d'être au service des savants. Et il faut patienter quand parfois on a un professeur qui peut être un peu dur. Il a été rapporté de Shafi'i qu'on a dit à Soufiane ibn Uyayna, les gens viennent te voir des quatre coins de la terre et toi tu te fâches sur eux. Si tu fais cela, ils vont te délaisser et partir. Voilà que Soufiane ibn Uyayna a répondu, s'ils font cela, alors ils sont des imbéciles comme toi. Peut-être qu'Allah leur fera un bien à cause de mon mauvais comportement avec eux et ils seront récompensés pour cela. Aussi, il est important de ne pas trop perdre de temps dans les futilités. Pas trop manger, pas trop parler, surtout les paroles inutiles ou illicites. Choisir des bons camarades avec lesquels on s'entraide. Il ne doit pas y avoir de jalousie, de mauvaise jalousie entre nous, mais de la concurrence dans le bien, et de l'entraide, et de la fraternité. D'où l'importance de choisir les bons compagnons quand on veut étudier la science religieuse. Il y a encore beaucoup à dire, il y a des ouvrages et des ouvrages qui sont faits. Le premier ouvrage dont je vous ai parlé, d'Ibn Qayyim, Miftah Dar al-Sa'ada, presque 2000 pages, juste sur la science. 2000 pages avec les annotations, etc. Le livre de base, peut-être, fait un peu moins de 1000 pages. Juste pour montrer la valeur de la science et ce à quoi elle mène comme félicité. Donc les ouvrages dans ce sens, ils sont très nombreux. C'est pour cela, mes frères, il est très important à chacun d'entre nous de donner une importance particulière à l'apprentissage de la science religieuse. Et de mettre en pratique le peu qu'on connaît. Quand on met en pratique le peu qu'on connaît, Allah met la baraka, la bénédiction, et nous permet d'en connaître plus pour pouvoir encore le mettre en pratique et le transmettre. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.